Chapitre 6. Georges Duroy eut le réveil triste le lendemain. Il s'habilla lentement, puis s'assit devant sa fenêtre et se mit à réfléchir. Il se sentait dans tout le corps une espèce de courbature, comme s'il avait reçu la veille une volée de coups de bâton. Enfin, la nécessité de trouver de l'argent l'aiguillonna et il se rendit chez Forestier. Son ami le reçut, les pieds au feu, dans son cabinet. « Qu'est-ce qui t'a fait lever si tôt ?»« Une affaire très grave. J'ai une dette d'honneur. »«
De jeu ?»
Il hésita, puis avoua « De jeu. »«
Grosse ?»
500 francs. Il n'en devait que 280. Forestier, sceptique, demanda
« À qui dois-tu ça ?»
Duroy ne put pas répondre tout de suite. « Mais à un monsieur de Carleville. »«
Ah ?»«
Et où demeure-t-il ?»«
Rue...
rue... » Forestier se mit à rire. « Rue du Cherche-Midi à 14h, n'est-ce pas ?»« Je connais ce monsieur-là, mon cher. »« Si tu veux 20 francs, j'ai encore ça à ta disposition, mais pas davantage. »
Duroy accepta la pièce d'or.
Puis il alla, de porte en porte, chez toutes les personnes qu'il connaissait, et il finit par réunir vers 5h 80 francs. Comme il lui en fallait trouver encore 200, il prit son parti résolument, et, gardant ce qu'il avait recueilli, il murmura « Zut, je ne vais pas me faire de bile pour cette garce-là. Je la paierai quand je pourrai. » Pendant 15 jours, il vécut d'une vie économe, réglée et chaste, l'esprit plein de résolution énergique. Puis il fut pris d'un grand désir d'amour. Il lui semblait que plusieurs années s'étaient écoulées depuis qu'il n'avait tenu une femme dans ses bras. Et, comme le matelot qui s'affole en revoyant la terre, toutes les jupes rencontrées le faisaient frissonner. Alors il retourna, un soir, aux Folies Bergères, avec l'espoir d'y trouver Rachel. Il l'aperçut, en effet, dès l'entrée, car elle ne quittait guère cet établissement. Il alla vers elle en souriant la main tendue, mais elle le toisa de la tête aux pieds. « Qu'est-ce que vous me voulez ?» Il essaya de rire. « Allons, ne fais pas ta poire !» Elle lui tourna les talons en déclarant « Je ne fréquente pas les Dauvers !» Elle avait cherché la plus grossière injure. Il sentit le sang lui empourprer la face, et il rentra seul. Forestier, malade, affaibli, toussant toujours, lui faisait au journal une existence pénible, semblait se creuser l'esprit pour lui trouver des corvées ennuyeuses. Un jour même, dans un moment d'irritation nerveuse et après une longue quinte d'étouffement, comme Duroy ne lui apportait point un renseignement demandé, il grogna « Christy, tu es plus bête que je n'aurais cru !» L'autre faillit le gifler, mais il se contint et s'en alla en murmurant « Toi, je te rattraperai. » Une pensée rapide lui traversa l'esprit et il ajouta « Je vais te faire cocu, mon vieux. » Et il s'en alla en se frottant les mains, réjoui par ce projet. Il voulut, dès le jour suivant, en commencer l'exécution. Il fit à Madame Forestier une visite en éclaireur. Il la trouva qui lisait un livre, étendu tout au long sur son canapé. Elle lui tendit la main, sans bouger, tournant seulement la tête, et elle dit « Bonjour, belle amie. » Il eut la sensation d'un soufflet reçu. « Pourquoi m'appelez-vous ainsi ?» Elle répondit en souriant « J'ai vu Madame de Marelle l'autre semaine et j'ai su comment vous avez baptisé chez elle. » Il se rassura devant l'air aimable de la jeune femme. Comment aurait-il pu craindre d'ailleurs ? Elle reprit « Vous la gâtez. Quant à moi, on me vient voir quand on y pense, les 36 du mois. » Ou peu s'en faut. Il s'était assis près d'elle et il la regardait avec une curiosité nouvelle, une curiosité d'amateur qui bibelote. Elle était charmante, blonde d'un blond tendre et chaud, faite pour les caresses. Et il pensa, elle est mieux que l'autre, certainement. Il ne doutait point du succès, il n'aurait qu'à allonger la main, lui semblait-il, et à la prendre comme on cueille un fruit. Il dit résolument « Je ne venais point vous voir parce que cela valait mieux. » Elle demanda sans comprendre « Comment ? Pourquoi ?
Pourquoi ? Vous ne devinez pas ?
Non, pas du tout. Parce que je suis amoureux de vous. Oh, un peu. Rien qu'un peu. Et que je ne veux pas le devenir tout à fait. Elle ne parut ni étonnée, ni choquée, ni flattée. Elle continuait à sourire du même sourire indifférent, et elle répondit avec tranquillité « Oh, vous pouvez venir tout de même. On n'est jamais amoureux de moi longtemps. » Il fut surpris du ton plus encore que des paroles, et il demanda « Pourquoi ? Parce que c'est inutile, et que je le fais comprendre tout de suite. Si vous m'aviez raconté plus tôt votre crainte, je vous aurais rassuré et engagé au contraire à venir le plus possible. » Il s'écria, d'un ton pathétique, « Avec ça qu'on peut commander au sentiment ?» Elle se tourna vers lui. « Mon cher ami, pour moi, un homme amoureux est rayé du nombre des vivants. Il devient idiot, pas seulement idiot, mais dangereux. Je cesse, avec les gens qui m'aiment d'amour ou qui le prétendent, toute relation intime, parce qu'il m'ennuie d'abord. Et puis parce qu'ils me sont suspects comme un chien enragé qui peut avoir une crise. Je les mets donc en quarantaine morale jusqu'à ce que leur maladie soit passée. Ne l'oubliez point. Je sais bien que chez vous, l'amour n'est autre chose qu'une espèce d'appétit, tandis que chez moi, ce serait, au contraire, une espèce de communion des âmes qui n'entre pas dans la religion des hommes. Vous en comprenez la lettre. Et moi l'esprit, mais regardez-moi bien en face. » Elle ne souriait plus. Elle avait un visage calme et froid, et elle dit en appuyant sur chaque mot « Je ne serai jamais, jamais votre maîtresse. Entendez-vous ? Il est donc absolument inutile, il serait même mauvais pour vous, de persister dans ce désir. Et maintenant que l'opération est faite, voulez-vous que nous soyons amis, bons amis, mais là, de vrais amis, sans arrière-pensée ? » Il avait compris que toute tentative resterait stérile devant cette sentence sans appel. Il en prit son parti tout de suite, franchement, et, ravi de pouvoir se faire cet allié dans l'existence, il lui tendit les deux mains. « Je suis à vous, madame, comme il vous plaira. » Elle sentit la sincérité de la pensée dans la voix, et elle donna ses mains. Il les baisa l'une après l'autre, puis il dit simplement en relevant la tête « Christy, si j'avais trouvé une femme comme vous, avec quel bonheur je l'aurais épousée. » Elle fut touchée cette fois, caressée par cette phrase comme les femmes le sont par les compliments qui trouvent leur cœur, et elle lui jeta un de ces regards rapides et reconnaissants qui nous font leurs esclaves. Puis, comme il ne trouvait pas de transition pour reprendre la conversation, elle prononça d'une voix douce en posant un doigt sur son bras. « Et je vais commencer tout de suite mon métier d'ami. Vous êtes maladroit, mon cher. » Elle hésita et demanda « Puis-je parler librement ?»«
Oui. »
« Tout à fait ?»«
Tout à fait. » »«
Eh bien... allez donc voir Madame Walter, qui vous apprécie beaucoup, et plaisez-lui. Vous trouverez à placer par là vos compliments, bien qu'elle soit honnête, entendez-moi bien, tout à fait honnête. Oh, pas d'espoir de maraudage non plus de ce côté. Vous y pourrez trouver mieux, en vous faisant bien voir. Je sais que vous occupez encore dans le journal une place inférieure, mais ne craignez rien. Ils reçoivent tous les rédacteurs avec la même bienveillance. Allez-y, croyez-moi. » Il dit en souriant « Merci, vous êtes un ange gardien. » Puis ils parlèrent de choses et d'autres. Il resta longtemps, voulant prouver qu'il avait plaisir à se trouver près d'elle, et en la quittant, il demanda encore « C'est entendu, nous sommes des amis. » « C'est entendu. » Comme il avait senti l'effet de son compliment tout à l'heure, il l'appuya, ajoutant « Et si vous devenez jamais veuve, je m'inscris. » Puis il se sauva bien vite pour ne point lui laisser le loisir de se fâcher. Une visite à Madame Walter gênait un peu du roi, car il n'avait point été autorisé à se présenter chez elle, et il ne voulait pas commettre de maladresse. Le patron lui témoignait de la bienveillance, appréciait ses services, l'employait de préférence aux besognes difficiles. Pourquoi ne profiterait-il pas de cette faveur pour pénétrer dans la maison ? Un jour donc, s'étant levé de bonne heure, il se rendit aux Halles au moment des ventes et il se procura, moyennant une dizaine de francs, une vingtaine d'admirables poires. Les ayant ficelées avec soin dans une bourriche pour faire croire qu'elles venaient de loin, il les porta chez le concierge de la patronne avec sa carte où il avait écrit « Georges du Roi prie humblement Madame Walter d'accepter ces quelques fruits qu'il a reçus ce matin de Normandie. » Il trouva le lendemain dans sa boîte aux lettres au journal une enveloppe contenant en retour la carte de Madame Walter qui remerciait bien vivement Monsieur Georges du Roi et restait chez elle tous les samedis. Le samedi suivant, il se présenta. Monsieur Walter habitait boulevard Malesherbes, une maison double lui appartenait, et dont une partie était louée, procédé économique de gens pratiques. Un seul concierge, gité entre les deux portes cochères, tirait le cordon pour le propriétaire et pour le locataire, et donnait à chacune des entrées un grand air d'hôtel riche, et comme il faut, par sa belle tenue de Suisse d'église, ses gros mollets emmaillotés en des bas blancs, et son vêtement de représentation à boutons d'or et à revers écarlates. Les salons de réception étaient au premier étage, précédés d'une antichambre tendue de tapisseries et enfermée par des portières. Deux valets sommeillaient sur des sièges. Un d'eux prit le par-dessus de du roi et l'autre s'empara de sa canne, ouvrit une porte, devança de quelques pas le visiteur, puis, s'effaçant, le laissa passer en criant son nom dans un appartement vide. Le jeune homme, embarrassé, regardait de tous les côtés quand il aperçut dans une glace des gens assis et qui semblaient fort loin. Il se trompa d'abord de direction, le miroir ayant égaré son œil, puis il traversa encore deux salons vides pour arriver dans une sorte de petit boudoir tendu de soie bleue à boutons d'or, où quatre dames causaient à mi-voix, autour d'une table ronde qui portait des tasses de thé. Malgré l'assurance qu'il avait gagnée dans son existence parisienne, et surtout dans son métier de reporter qui le mettait incessamment en contact avec des personnages marquants, Duroy se sentait un peu intimidé par la mise en scène de l'entrée et par la traversée des salons déserts. Il balbutia « Madame, je me suis permis » en cherchant de l'œil la maîtresse de la maison. Elle lui tendit la main qu'il prit en s'inclinant et lui ayant dit « Vous êtes fort aimable, monsieur, de venir me voir. » Elle lui montra un siège où, voulant s'asseoir, il se laissa tomber, l'ayant cru beaucoup plus haut. On s'était tu. Une des femmes se remit à parler. Il s'agissait du froid qui devenait violent, pas assez cependant pour arrêter l'épidémie de fièvre typhoïde ni pour permettre de patiner. Et chacune donna son avis sur cette entrée en scène de la gelée à Paris. Puis elles exprimèrent leurs préférences dans les saisons, avec toutes les raisons banales qui traînent dans les esprits comme la poussière dans les appartements. Un bruit léger de porte fit retourner la tête de Duroy. Et il aperçut, à travers deux glaces sans teint, une grosse dame qui s'en venait. Dès qu'elle apparut dans le boudoir, une des visiteuses se leva, serra les mains, puis partit. Et le jeune homme suivit du regard par les autres salons son dos noir où brillaient des perles de jais. Quand l'agitation de ce changement de personne se fut calmée, on parla spontanément, sans transition, de la question du Maroc et de la guerre en Orient, et aussi des embarras de l'Angleterre à l'extrémité de l'Afrique. Ces dames discutaient ces choses de mémoire, comme si elles eussent récité une comédie mondaine et convenable, répétée bien souvent. Une nouvelle entrée eut lieu, celle d'une petite blonde frisée, qui détermina la sortie d'une grande personne sèche, entre deux âges. Et on parla des chances qu'avait M. Linet pour entrer à l'Académie. La nouvelle venue pensait fermement qu'il serait battu par M. Cabanon Lebas, l'auteur de la belle adaptation en vers français de Don Quichotte pour le théâtre. « Vous savez que ce sera joué à l'Odéon l'hiver prochain. »«
Ah, vraiment, j'irai certainement voir cette tentative très littéraire. »
Madame Walter répondait gracieusement avec calme et indifférence, sans hésiter jamais sur ce qu'elle devait dire, son opinion étant toujours prête d'avance. Mais elle s'aperçut que la nuit venait et elle sonna pour les lampes, tout en écoutant la causerie qui coulait comme un ruisseau de guimauve, et en pensant qu'elle avait oublié de passer chez le graveur pour les cartes d'invitation du prochain dîner. Elle était un peu trop grasse, belle encore, à l'âge dangereux où la débâcle est proche. Elle se maintenait à force de soins, de précautions, d'hygiène et de pâtes pour la peau. Elle semblait sage en tout, modérée et raisonnable, une de ces femmes dont l'esprit est aligné comme un jardin français. On y circule sans surprise, tout en y trouvant un certain charme. Elle avait de la raison, une raison fine, discrète et sûre, qui lui tenait lieu de fantaisie, de la bonté, du dévouement et une bienveillance tranquille, large pour tout le monde et pour tout. Elle remarqua que Duroy n'avait rien dit, comme on ne lui avait point parlé, et qu'il semblait un peu contraint. Et comme ces dames n'étaient point sorties de l'académie, ce sujet préféré les retenant toujours longtemps, elle demanda « Et vous qui devez être renseigné mieux que personne, monsieur Duroy, pour qui sont vos préférences ?» Il répondit sans hésiter « Dans cette question, madame, je n'envisagerai jamais le mérite, toujours contestable, des candidats, mais leur âge et leur santé. Je ne demanderai point leur titre, mais leur mal. Je ne rechercherai point s'ils ont fait une traduction rimée de Lope de Vega, mais j'aurai soin de m'informer de l'état de leur foi, de leur cœur, de leurs reins et de leur moelle épinière. Pour moi, une bonne hypertrophie, une bonne albuminurie et surtout un bon commencement d'ataxie locomotrice vaudrait 100 fois mieux que 40 volumes de digressions sur l'idée de patrie dans la poésie barbaresque. » Un silence étonné suivit cette opinion. Madame Walter, souriant, reprit « Pourquoi donc ?» Il répondit « Parce que je ne cherche jamais que le plaisir qu'une chose peut causer aux femmes. Or, madame, l'académie n'a vraiment d'intérêt pour vous que lorsqu'un académicien meurt. Plus il en meurt, plus vous devez être heureuse. Mais pour qu'ils meurent vite, il faut les nommer vieux et malades. » Comme on demeurait un peu surpris, il ajouta « Je suis comme vous, d'ailleurs. Et j'aime beaucoup lire dans les Échos de Paris le décès d'un académicien. Je me demande tout de suite qui va le remplacer. Et je me fais ma liste. C'est un jeu, un petit jeu très gentil, auquel on joue dans tous les salons parisiens à chaque trépas d'immortel. Le jeu de la mort et des 40 vieillards. » Ces dames, un peu déconcertées encore, commençaient cependant à sourire, tant était juste sa remarque. Il conclut en se levant « C'est vous qui les nommez, mesdames, et vous ne les nommez que pour les voir mourir. Choisissez-les donc vieux, très vieux, le plus vieux possible, et ne vous occupez jamais du reste. » Puis il s'en alla avec beaucoup de grâce. Dès qu'il fut parti, une des femmes déclara « Il est drôle, ce garçon. Qui est-ce » Madame Walter répondit « Un de nos rédacteurs qui ne fait encore que la menue besogne du journal, mais je ne doute pas qu'il arrive vite. » Duroy descendait le boulevard Malesherbes gaiement, à grands pas dansant, content de sa sortie et murmurant « Bon départ. » Il se réconcilia avec Rachel ce soir-là.